RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, après deux semaines d'une triste crise dont nous ne connaîtrons certainement jamais les vrais tenants et aboutissants, la page est désormais tournée, place au jeu, et tant mieux car samedi, c'est jour de crunch, une Angleterre méconnaissable battue à deux reprises en trois matchs et sur laquelle il faudra passer pour rêver encore de grands chelems. Alors est-ce vraiment le meilleur moment pour affronter la bête blessée? On en débat dans un instant entre les poteaux. Les bleus sont quasiment au complet, aptes au service, oui, mais en manque de rythme. Alors qui aligner pour tenter de cueillir la rose? Les poteaux ont des idées et vous les donnent. Les internationaux qui, dans la cacophonie du moment, ont quasiment tous joué avec leur club ce week-end, alors que c'était pas vraiment prévu au départ. Nouvelle illustration de l'incompréhension entre club et équipe de France. Pierre Amiche, qui adore remuer le couteau dans la plaie, nous rappellera quelques épisodes savoureux de cette entente pas vraiment cordiale. Enfin, parce que nous aussi, en France, nous avons des idées et des Anglais, nous avons choisi de décerner le titre de Hornet of the Weekend. Oui, ça veut dire frelon, Denis, en anglais. Je sais que tu le savais, mais bon, je précise quand même. Donc, à Alex Lozovski, international anglais débarqué à Montpellier l'été dernier et qui a enfin réussi un bon match vendredi soir contre Clermont. Les homies poteaux du jour, ce sont donc Denis Charvet, The Legend, hello Dennis.
Hello.
Manu Mazikard, The Boss of the Mid-Olympic.
Salut les amis.
Bonjour Manu. Mise encore Peter Amish and Wilfried Templier. Hello boys.
Good evening.
On devrait faire l'anglais, l'émission qu'en anglais.
Oui, oui, oui.
On se rendrait la gueule.
Je pense qu'il y aurait matière à rigoler. Et dire qu'avec toutes ces bêtises, on a failli en être privé. Rassurez-vous, bonnes gens, le crunch aura bien lieu. Le match de rugby le plus excitant de l'année, c'est pour samedi.
France-Angleterre, c'est toute une histoire.
Pour moi, le crunch, c'est le match de l'année. C'est le match qu'il faut gagner.
Et c'est fini. C'est fini derrière. 43-31. Nous avons battu la plus belle équipe du monde.
Le crunch en anglais, c'est comme un choc frontal entre deux voitures. C'est aussi violent que ça.
On n'en sort pas tout à fait indemne parce qu'il est certain que ça remue les tripes quand même.
Rivalité avec l'Angleterre, finalement, elle est dans nos gènes, dans notre ADN, lorsqu'on est.
Tu sais pertinemment que ça va être dur durant 80 minutes et ça va être un match spécial.
C'est pas le résultat du prochain Angleterre-France, mais le nombre de victoires obtenues par chacune de ces deux nations lors de leur confrontation directe. Affrontement plus que centenaire, hein, puisque c'est en 1906, messieurs, que la Rose corrigeait pour la première fois le coq de France. Il a fallu ensuite attendre plus de 20 ans pour qu'enfin, en avril 1927, devant 35 000 spectateurs à Colombes, un essai de l'ailier grenoblois Edmond Vella permette aux Bleus d'obtenir leur premier succès contre l'Angleterre. Score final, 3-0. Eh oui, et 1, et 2, et 3-0. Messieurs, à cette époque, aucun d'entre nous n'était encore né, hein, Denis, tu me confirmes?
Non,
a priori.
Pas moi.
Il n'empêche, près de 100 ans plus tard, l'engouement est toujours le même pour ce match, sans doute le plus excitant du rugby européen, sinon du rugby mondial. Vous êtes d'accord avec ça, Manu? Par exemple, pour toi, c'est le plus excitant, le crunch?
C'est le match le plus bankable de au niveau économique. C'est celui qui fait le plein quasiment à
on parle d'émotion, tu nous parles de pognon, toi.
Ouais, mais ça c'est normal. Ça c'est normal. Après, en termes d'émotion, c'est comme un France All Black. En termes d'émotion, il y a une vraie rivalité avec l'Angleterre. Il y a plus d'émotion, je pense, sur un France Nouvelle-Zélande, mais il y a une vraie grosse rivalité avec l'Angleterre.
Denis, c'est le match.
Oui, mais le manque de public change tout, quand même.
Si tu veux, mais je te parle pas. On parle pas du cas particulier.
Oui, le cas particulier, c'est celui-là, hein, le cas particulier. Mais bon, oui, le crunch, c'est notre parfum. Tous les matchs sont. C'est vrai que ta concentration, ton envie, c'est pas la même.
Ouais.
C'est pas la même.
T'en as un en mémoire, Denis? C'est pas prévu dans le conducteur, peut-être, Christophe, mais un France-Angleterre en mémoire, Denis, qui te
jouer,
reste comme
ou
ça,
que j'ai
t'as joué ou pas joué, n'importe.
Bah, moi, c'est le grand chelem. Nous, on gagne le grand chelem en Angleterre, enfin, pas en Angleterre, mais on gagne en Angleterre avec un match très difficile.
C'est quand Philippe Sélla fait l'interception.
Oui, mais alors qu'on est dominé, mais. Non, mais c'était un Twickenham où à l'époque, le gazon, je vous assure, c'était terrible parce que tu pouvais pas vraiment accélérer, il y avait tellement d'herbe, il le coupait pas exprès,
ouais,
mais il faisait exprès, si tu veux. Donc tu avais beaucoup d'herbe C'était très, c'est pas avoir aujourd'hui quand t'as pelouse synthétique, t'imagines, mais nous, c'était terrible. Et ce match-là, j'ai un souvenir qui est extrêmement pénible, dur, où on avait été vraiment pas martyrisé, mais on gagne vraiment au forceps.
T'avais pas réussi à accélérer, toi, la bête.
Si, mais c'était l'époque où je te promets, il coupait pas le gazon.
Salopard d'anglais. Match excitant, d'autant qu'il est cette année plus indécis que jamais entre l'Angleterre bête blessée et la France bête malade.
L'action, l'idée.
Le 15 de la Rose qui, il y a 17 mois, passé sur le corps des All Blacks, se qualifiait pour la finale de la Coupe du Monde. Tout le monde, ce jour-là, considérait l'Angleterre comme la meilleure nation de rugby au monde. Une semaine plus tard, elle était battue par les Box en finale. Et depuis, la Rose est un petit peu moins épanouie et donne l'impression, Wilfried, d'une descente en pente douce qui s'est un peu accentuée ces dernières semaines.
Ouais, bon, on jugera samedi, hein, parce que une seule, en 10 ans de tournoi destination, les Anglais ont perdu 3 matchs dans une édition sur les 10 dernières saisons. Sinon, c'est au maximum une seule défaite par tournoi depuis 2011. Et certains l'ont peut-être oublié, mais cette édition à 3 défaites, c'était déjà avec Eddie Jones. C'était en 2018, il y a 3 ans, au moment où l'Irlande fait le grand chelem. Les Anglais qui avaient remporté les éditions 2016 et 2017 avec Mister Eddie à leur tête perdent à ce moment-là en Écosse, en France et contre l'Irlande à Twickenham lors de la dernière journée. Donc, alors, la crise, est-ce que c'est la crise chez les Anglais? Cette édition 2018 les empêche pas, tu l'as dit, d'être finaliste de la Coupe du Monde un an et demi après, en balayant les Blacks en demi. Alors oui, on va en reparler, ils jouent dégueulasse pour les puristes ces derniers mois, mais les 2 trophées de la saison dernière, ils sont dans les armoires de la RFU à Twickenham, hein, à savoir tournoi 2020 et Coupe d'automne du Covid là. Fabien Galthié, qui dit vouloir gagner des matchs mais aussi des titres, il n'aurait pas craché dessus 10 ans après le dernier trophée du 15 de France. Alors, Eddie Jones est sous pression, notamment celle des médias anglais, hein, qu'il prendrait bien à son propre jeu de sa communication, le sourire en coin. Oui, il va jouer gros samedi et ses leaders, les George, Itoje, les frères Vunipola, Farrell et compagnie aussi, ils sont loin de leur niveau habituel, au point de faire des erreurs de cadet dans ce tournoi contre le Pays de Galles, 2 essais donnés au Pays de Galles, et de filer, écoutez bien, 41 pénalités en 3 matchs à l'adversaire. C'est autant que l'Italie depuis le début du tournoi, pour vous dire que l'Angleterre est complètement déréglée. Mais messieurs, on va en parler, mais avant de se taper sur le ventre et de dire que c'est la crise chez les Anglais, peut-être, on va se dire que nous, ça fait 10 ans qu'on n'a rien gagné, y compris depuis 1 an avec ce nouveau staff.
Oui, effectivement, c'est la crise. On aimerait bien connaître ce genre de crise, nous, dans le rugby français. Ça fait longtemps que on n'a pas été au niveau de l'Angleterre, même si là, on en approche. Denis, il faut évidemment se méfier de la bête blessée. Tu penses que c'est une crise passagère qui est en train de vivre le 15 de la Rose, ou c'est vraiment une fin de règne pour Eddie Jones?
Le premier regard, c'est que j'ai l'impression qu'il stagne à tous les niveaux. Donc cette indiscipline et ces pénalités, c'est un signe fort. Ça veut dire qu'ils y sont plus dans la tête, mais même dans le jeu. Moi, dans le jeu, je trouve qu'ils progressent pas du tout. Donc leur jeu, qui était très fort, basé sur une défense, on le sait, mais aussi avec des hommes forts devant, ben depuis 2 ans, là, depuis la Coupe du Monde, ils sont en pleine régression. Ce qui veut pas dire qu'ils sont morts. On va voir, parce que ce match, il est complexe, ce match samedi. Mais c'est vrai qu'elle de soi, l'image de Farrell, le capitaine, qui pour moi est devenu un joueur neutre, c'est-à-dire totalement anodin, qui n'a pas sa place, il le fait jouer, il insiste pour le faire jouer. Moi, je trouve qu'il n'a pas sa place aujourd'hui. Et puis après, il n'y a pas assez de renouvellement chez Eddie Jones. Moi, je pense que la vérité, c'est que bon, il fait confiance à des joueurs qui aujourd'hui ont perdu de leur superbe.
Il y a 2 choses, hein. Il y a l'aspect physique, les joueurs, les leaders de cette formation ne sont pas au top, mais il y a aussi l'aspect mental. Et d'ailleurs, celui qu'on a parlé très bien, c'est Mike Brown, qui en a parlé il y a 3 semaines, après un match une nouvelle fois horrible. Ça fait On n'a pas attendu ce tournoi-là pour voir que les Anglais sont pas très bons. Hein. Ça fait 1 an qu'ils sont quand même assez moyens, en dépit du fait, et Wilfried l'a rappelé, qu'ils gagnent. Et Mike Brown a dit, en fait, ce qui marche pas, c'est qu'ils ont peur d'Eddie Jones. Ils osent pas lui dire que son plan de jeu est nul, que son plan de jeu ne va pas. Et il a rappelé les précédents en disant, moi, je suis allé le voir, je lui ai dit que c'était pas bien. Je n'ai pas fait la Coupe du Monde. Danny Kerr est allé le voir et lui a dit que c'était pas bien. Il a été exclu du groupe. Et finalement, il met une telle pression sur ses joueurs qu'ils osent pas vraiment exprimer le fait que c'est quand même pas très bon ce qu'ils font, c'est pas adéquat, c'est pas le rugby qu'ils ont envie de produire et c'est peut-être pas celui qu'ils sont capables de faire. Et puis la dernière chose, c'est que Eddie Jones est très malin dans sa communication, il sait qu'il est sur le grill là et que ça commence vraiment à chauffer pour son cul. Et donc qu'est-ce qu'il a dit cette semaine? Il a dit, les joueurs m'ont appelé pour s'excuser de leur indiscipline. Et une nouvelle fois, Eddie Jones, en termes de communication, c'est jamais vraiment sa faute. Oui. Lui, il a pris l'héritage de Lancaster, il a pas changé le leader, il a pas changé le plan de jeu, il a gardé les mêmes, il est moins bon et il arrive quand même à dire que c'est la faute de ses joueurs qui lui ont appelé pour s'excuser. Puis, dernier truc, c'est quand même Maro Itoje qui a dit je vous demande de ne rien changer. On sent que Maro Itoje, il a un peu peur pour son poste et peut-être un peu pour son statut, et il veut surtout conforter Eddie Jones alors que ça commence à sentir un peu le soufre. Je trouve que c'est dommage pour cette équipe d'Angleterre, parce que sur le papier c'est tellement excitant, on a envie de les voir faire plus, de produire plus.
Ouais, on sait qu'un entraîneur a une date de péremption de plus en plus courte, hein, dans le sport de haut niveau. Manu, est-ce que Eddie Jones a fait son temps? Est-ce qu'il faudrait peut-être que l'Angleterre envisage de changer d'entraîneur?
Je crois pas. On est au milieu d'un cycle entre deux Coupes du Monde, avec une génération qui va essayer d'amener jusqu'en 2023. Je ne vous dis pas qu'il faudrait, pour céder au message de Pierre, qu'il faudrait pas renouveler un petit peu tout ça, mais je pense qu'il ira au bout avec cette équipe. N'oubliez pas qu'on est entre deux tournées des Lions et que les Anglais n'ont pas que le tournoi en ligne de mire, qu'il y a aussi pour tous les Britanniques une sélection cet été avec les Lions, oui, qui comptera au milieu de l'histoire. C'est très important.
C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à réaliser.
Ouais, nous on sera pas contre. On joue
surtout chez les championnats du monde sud-africains, hein, en plus.
Ouais, c'est quand même une grande revanche. Nous, on joue la Coupe latine ou la Coupe d'automne des nations. Eux, ils vont jouer la tournée des Lions. Ça compte dans la préparation des matchs. Ça compte dans la saison des internationaux britanniques. Et on l'a vu avec les
contenus, hein. Manu, c'est pas ça qui fait ouais, que le contenu des matchs est aussi faible. C'est ça, moi, qui m'interpelle le plus.
Attends, on n'est pas les champions du monde non plus. On n'est pas.
Non, je suis pas là pour donner des leçons. Je dis pas la France est meilleure ou la France produit plus. Je dis simplement que la France est plus efficace, plus disciplinée, et qu'aujourd'hui l'Angleterre, ce qu'elle fait, c'est trop faible.
C'est chiant.
C'est trop faible.
C'est
ils se contentent de mettre des grandes quilles. C'est ni du jeu au pied d'occupation, ni du jeu au pied de pression.
Mais je vous
c'est
dis qu'elle a régressé. C'est-à-dire qu'elle, elle s'est pas remise en question. Itoje ne faisait pas autant de fautes.
Mais Eddie Jones, pour moi, est le coupable. Est vraiment le seul coupable. Enfin,
ouais, mais attention, on est au milieu du guet entre les deux Coupes du Monde.
Oui, mais.
Ils vont pas se dévoiler trop tôt.
Je pense
que tout part de maintenant.
Oui, mais la confiance, tu sais très bien que la confiance, elle vient en gagnant des matchs. Manu, si tu commences à enchaîner les défaites, notamment chez toi contre la France et tout, mais t'envoies des signaux forts aux autres.
Attention. Moi, je dis pas que tout va bien en Angleterre. Je dis méfiance. On y va. Ça va pas être facile et il faudrait pas qu'on en paye les frais quand même de ce réveil de l'Angleterre.
On peut pas passer à côté du fait que de nombreux leaders de cette équipe sont les leaders des Saracens.
Oui,
bien sûr. Ça, c'était un élément très important.
On peut pas passer à côté de ça, je pense, parce que ils ont pas joué pendant longtemps. C'est pas les Saracens qui sont en Coupe d'Europe, en championnat, qui ont le rythme et tout. Parce que c'est des joueurs importants dans cette équipe quand même.
Oui, donc on peut pas se retrancher toujours sur
les Lions, c'est incontournable, et les Saracens, c'est incontournable. C'est le deuxième élément que j'avais oublié de vous dire. C'est effectivement ça. Les mecs, ils sont hors du coup. Ils sont pas habitués ils manquent de rythme. Donc forcément, quand tu vas avoir retrouvé une équipe de Saracens, j'ai tendance à penser comme Wilfried, quand tu vas les retrouver au niveau, équipe d'Angleterre, elle ira mieux.
Là où je te suis pas, Manu, c'est que contre les Gallois, je les ai trouvés un peu meilleurs.
Il y avait du mieux.
Et malgré tout, c'est tellement pauvre comme rugby, si tu veux, c'est ça qui m'inquiète chez eux. C'est pas tellement là, parce que même Itoje a été meilleur, même s'il était indiscipliné, il a été meilleur. Oui, mais je veux dire, il était plus dans le combat.
C'était le match le plus abouti de l'Angleterre.
Le plus abouti de l'Angleterre.
Et puis la demi-finale.
Puis si l'arbitre n'intervient pas sur deux fautes d'arbitrage grotesques, je pense que les Anglais doivent gagner. Mais bon, ça c'est notre histoire.
Malgré tout, c'est vrai, comme le disait Manu, il faut se méfier évidemment d'une bête blessée, surtout lorsqu'elle affronte la France, sa meilleure ennemie. Les Anglais qui en ont assez, en plus qu'on leur rabâche tout le temps. Combien les jeunes Français sont talentueux, ça je crois qu'il n'y a rien de pire pour énerver un Anglais. Ces jeunes Français, justement, dans quel état sont-ils après la tragicomédie de la bulle percée du Covid, qui en a touché plus d'un? Difficile à dire. En tout cas, Wilfried, ils sont presque au complet, c'est déjà ça. Hein.
Ouais, c'est dingue quand même, hein, parce qu'à un moment on a eu 12 cas de Covid, on aurait dû se passer de notre épine dorsale face à l'Écosse, et on oblige même ces Écossais à reporter le match. Et tour de magie, on retrouve tout le monde pour la suite du tournoi, plus que tout le monde, car oui, Dupont, Awas, Baye, Marchand, Olivon, Dulin, des titulaires en puissance sont de retour. Mais en plus, revoici Kamicha, Romain Tamak et Virimi Vakatawa. Alors pour Chat, ce sera peut-être difficile de déloger Marchand et Bourgarit au nom de la continuité. Pour Vakatawa, pour ceux qui ont vu son match avec le Racing à Toulon, pas de souci pour le titulariser avec les Bleus en Angleterre. Ce joueur est d'une telle facilité, mais dans l'avancée, c'est incroyable. Enfin, pour Romain Tamac, il y a match avec Mathieu Jalibert, on va en parler. Finalement, il y a que Gabin Villière, touché un doigt et opéré, qui va manquer. Tournoi terminé pour lui et 6 semaines d'absence, donc, et Louis Carbonel qui fait les frais du retour de Ntamack. Mais Louis Carbonel n'était pas titulaire dans cette équipe. Maintenant, messieurs, une question. Dans quel état de forme sont nos petits Français? Sur les 31 sélectionnés, ils sont tout de même 13 à ne pas avoir joué une seule minute depuis l'Irlande. Les 6 que je viens de vous dire, vous ajoutez Tau Fifunua, Bourgarit, Aldrit, mais aussi Ficou, Penaud, Teddy Thomas. Ça veut dire 3 semaines et au coup d'envoi, ça fera 4 semaines hein, sans match. Hein. Faut-il jouer la continuité avec ces mecs, avec ces habituels titulaires, au risque peut-être d'avoir la panne d'essence en fin de match, ou privilégier les épargnés du Covid qui ont joué ce week-end, des Gelon, Chouaki, Serin, Jalibert, Boutier. Alors, messieurs, la semaine de préparation, notamment le travail physique, hein, la réaction des joueurs à cette activité sera primordiale. Le staff des prépas va de toute façon voir comment les joueurs réagissent physiquement. Vous savez, ils ont en possession tous les standards de chacun, mais ces jours-là, avant l'Angleterre, seront très importants physiquement.
Ce manque de rythme, Denis, ça peut être un problème pour l'équipe de France. Est-ce qu'à l'heure de jeu, ils peuvent souffrir, là, toutes les stars?
Il va y avoir une gestion importante du banc. Je pense que ça va être fondamental de bien calculer au niveau de l'intensité, les joueurs qui vont commencer à faiblir. Forcément, ils vont faiblir. Oui, le manque de rythme, c'est certain. Ce qui va pas nous handicaper pour autant, hein, je pense pas. Mais il va falloir faire du bon coaching, comme on dit, pour assurer, oui, pour pas laisser aux Anglais le commandement du match et de l'emporter.
Ouais, 5 jours seulement pour préparer un tel match, Manu, c'est pas beaucoup hein, pour Galtier, pour son staff.
Ouais. C'est une équipe qui, si on oublie les 10 derniers jours passés à combattre le virus et à s'isoler, c'est une équipe qui est quand même ensemble depuis plus d'un mois. Donc il y a des vrais repères. C'est un groupe qui travaille depuis maintenant un an quasiment exclusivement sur ce même rythme avec ces mêmes joueurs. Donc on a quand même des repères. La question sera sur le physique. Je sais pas s'il y aura de grands changements, si on verra Ntamack à la place de Jalibert. Pour le reste, ça risque d'être quand même assez
c'est peut-être pas
classique.
Un cadeau. Ouais, enfin, faut voir, mais c'est pas un cadeau. Moi, j'ai vu son match face à Brive. Son match face à Brive à Romain. Il a été mal en difficulté. 2 mois sans jouer, c'est beaucoup, hein.
Enfin, non,
et
pas
d'arriver à Twickenham titulaire comme ça.
Jalibert va garder son poste d'ouvreur, tu penses, Denis?
Moi, c'est mon sentiment. Hein. Après, je peux me tromper, mais je pense qu'ils prendront pas le risque. Et Romain pourra rentrer les 20 dernières minutes ou le dernier quart d'heure.
Ouais, le coaching va être très important, hein, de toute manière. On a vu qu'en Italie, on avait coaché trop tôt, sans doute. Enfin, beaucoup et très tôt. Sans doute trop tôt. En Irlande, à l'inverse, c'est très français, hein, tu passes d'un excès à l'autre. En Irlande, on avait coaché sur le tard. Là, il va, comme l'a dit Denis, il va falloir trouver le bon point d'équilibre entre les deux. Hein.
Ça va dépendre aussi du scénario auquel on s'attend. C'est-à-dire que si la stratégie, c'est d'être solide jusqu'à la 60e avec un effectif de joueurs en forme et de faire rentrer des joueurs qui ont un véritable impact, Ntamack, Aldrit ou d'autres, ça peut être une manière de compenser le coaching un poil tardif. En revanche, si on met les titulaires, le 15 habituel, celui qu'on a vu depuis le début du tournoi, et qu'on coache un peu tard, je pense que là, oui, ça risque d'être très très compliqué, parce que rentrer dans un match où on est en train de perdre de la vitesse avec des joueurs un peu moins forts que ceux qui sortent,
mais là, il sera obligé de faire le coaching différent.
Ils vont vouloir avoir des repères aussi, hein. Donc les titulaires habituels, ils le seront peut-être, quand on parle justement des. Pas Ntamack, mais des Aldrit, Marchand, tout ça,
à part Romain Ntamack, je suis pas d'accord avec toi, Pierre, c'est que.
Non, moi je te dis juste ça.
C'est que Fabien, en général, il met les titulaires, hein.
Oui, bien sûr,
il a. C'est pas quelqu'un qui va faire tourner pour faire tourner, hein.
Juste un petit mot quand même concernant Jalibert. On l'a vu à l'arrière ce week-end avec son club de l'UBB.
C'est plaisir, c'est moi que j'en parle.
Oui, mais c'est vrai qu'on avait déjà évoqué le débat.
Il est tellement fort
dans les poteaux. C'est une solution pour toi à l'avenir.
J'ai vu Bernard, il m'a dit, t'as vu, j'allais bien être à l'arrière. J'ai dit, oui, qui connaît le rugby? C'est toi ou c'est moi? Non, moi, je me régale de voir ce gamin. Moi, je l'ai vu jouer, une telle facilité. Après, quand t'as cette facilité-là, tu peux jouer partout, la vérité. Mais bon, faut-il encore s'installer à un poste Voilà, le problème, c'est fait... que.
Oui, et puis, c'est Denis, aujourd'hui, Dulin est stratosphérique depuis des mois. Derrière, ouais.
Non, et puis, Dulin est très bon, donc voilà. Mais c'est bien de l'avoir en.
Mais la polyvalence, la polyvalence est importante. Hein, en Angleterre, on joue beaucoup sur la polyvalence. Alors, les seuls absents, Wilfried en parlait, ce sont Villiers.
J'ai oublié Arthur Vincent aussi.
Ouais, Arthur Vincent, qui n'est pas vraiment remis.
Encore positif.
Du Covid,
ouais, c'est ça. Longtemps positif, jusqu'à la semaine dernière.
Thomas Ramos, lui aussi, s'est blessé ce week-end. Dans un monde parfait, les internationaux n'auraient pas dû jouer ce week-end. Hein. Or, 18 des 31 de la liste étaient sur les pelouses. Une nouvelle preuve de la longue et belle histoire d'amour entre les clubs et l'équipe de France.
RMC, entre les poteaux, la boîte à gifles.
Pierrot, tu as sorti ta plus belle plume pour nous narrer les plus belles preuves de cette histoire amour-haine entre les Bleus et les clubs de top 14.
Eh oui, c'est l'éternelle histoire de l'œuf et de la poule de notre petit monde du rugby. Hein. La question, elle est toute simple. C'est qui le plus con ? Les clubs ou le 15 de France? Et parfois la question est simple, mais la réponse est complexe. J'aurais pu faire 3 heures juste sur les coups fourrés des uns et des autres, et que je te libère les joueurs le jeudi pour pas qu'ils jouent le week-end s'ils sont censés être dispo, et que je fais jouer les mecs entre deux matchs de destination et à 6 jours du crunch, et que je te rends les joueurs avec le Covid, et puis que je dis qu'ils sont qu'à contact, et en fait non, mais si un peu, et que je te rends des joueurs blessés à la sélection, et en fait le joueur ça va, non en fait on sait pas, et qu'en fait on avait 17 semaines pour le 15 de France, mais en fait ce sera 8, et que ça fait juste 15 jours de relation entre les Bleus et les clubs, ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans à nous dire qu'on va être champion du monde. L'intérêt supérieur du rugby doit triompher. L'unité nationale autour du maillot bleu, c'est une évidence pour tout le monde. Mais dans les faits, eh ben c'est comme pour le couvre-feu. C'est tellement le merdier qu'on a dû inventer des conventions, des règlements, des fenêtres de disponibilité. C'est une usine à gaz appelée le système Cessieux. C'est un truc que personne comprend, que pas grand monde respecte, mais bon, ça fait des années que ça existe, alors. Ça marche aussi avec la clause Middle, un truc illisible qui était drôlement plus clair dans les années 2000, mais j'ai pas tapé sur tout le monde non plus. Et puis le pire dans tout ça, c'est que c'est comme pour le cluster de Marcoussis, bah, c'est la faute de personne, surtout pas du président de la fédération, ni celui de la ligue. Les deux, ils se font des crasses à longueur de mandat dans une ambiance de grande section de maternelle. Et c'est pas moi, c'est l'autre, c'est lui qui a commencé, il fait rien qu'à m'embêter, il veut pas me donner ses joueurs. Ouais, mais l'autre, il me rend toujours ses joueurs cassés, gna gna gna. En fait, ce qui me fait marrer, c'est quand je me souviens des promesses de campagne de Bernard Laporte, vous vous rappelez ? On va mettre sous contrat fédéral les meilleurs joueurs français pour plus avoir à négocier avec les clubs. Il a dit, on va mettre 40 joueurs sous contrat. 4 ans après, aucun joueur du 15 de France sous contrat. Ils ont même réussi à perdre le seul joueur qui était sous contrat avec la Fédé, Vakatawa. Salaud de Noves qui a saboté le plan génial de Laporte. Encore lui. Bon, moi quand même, j'ai la solution pour sortir de ce quart de siècle de marasme et d'hypocrisie. J'ai une fulgurance cette nuit. On organise un contre un Laporte-Gauze avec un grand concours de mangeurs de crêpes. Le premier qui attrape le Covid a perdu. Ou sinon, solution B, on donne les pleins pouvoirs aux babas. Ça supplante l'équipe de France. On sélectionne que des gens de Pro D2 qui aiment la bière, pas l'argent, qui veulent pas s'entraîner. On règle tous les matchs à la pampe et voilà, pam, champion du monde. Bon, non, en fait, on sera peut-être jamais champion du monde, mais au moins, on va bien se marrer. Et si malgré tout ça, on arrive par miracle à décrocher le trophée suprême, on pourra dire merci à Philippe Saint-André et la convention. Et ça, c'est même pas une vanne.
Il est très très bon ce Pierrot, il est très très bon.
Bon, le c'est pouvoir en barbariance, hein Denis?
Oui, bah, oui voilà le pouvoir à Denis Charvet, ouais. Je peux te dire.
On l'a partagé le pouvoir, j'en suis sorti vite.
Oui, j'ai bien. Non, mais on a quand même vachement avancé, messieurs.
On est toujours affilié à la fédération.
Oui, on a quand même vachement avancé parce que les mecs sont 15 jours avec l'équipe de France avant les matchs maintenant. Souvenez-vous d'une défaite au Pays de Galles, alors je sais pas si c'est 2014 ou avant, c'est Philippe Saint-André, et il y a les Toulousains qui jouent le mercredi soir à Biarritz, Doussin et compagnie, et on perd au Millennium Stadium. Sur un match difficile avec l'arbitrage et tout, où, voilà, les mecs jouaient 4 jours, 5 jours avant un match d'équipe de France. Là, voilà, on a 2 semaines déjà de préparation. Donc, c'est pas encore la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, hein, tout pour l'équipe nationale. Mais
non, mais on est pas mal. On a
progressé. Alors, moi, j'ai croisé Gaël Ficou au Stade français parce que j'y allais pour RMC, évidemment.
Hein, bien sûr. Toujours précisé, Denis, quand même.
Précise-le, oui. Il m'a avoué que Gaël, il m'a avoué que.
J'ai pas eu ton compte rendu d'ailleurs, tu me l'enverras par mail.
Ouais, mais par mail, exactement. Il m'a avoué qu'il aurait aimé jouer. Et que finalement, là, c'était le choix de l'entraîneur. Donc, lui, il avait vraiment envie de jouer en vue du match.
Ouais. Et je pense que c'est pas mal qu'ils aient joué ce week-end. Hein.
Oui, oui.
Je pense. Non, c'est pour ça que tu disais, tu parlais des joueurs qui ont joué. Je pense que c'est bien pour.
Oui, alors tu joues, tu prends des risques. Évidemment, il y en a qui
blessent,
qui ont été blessés. Mais là, la situation est tellement particulière, et il leur faut un peu de rythme, d'avoir disputé quelques matchs. C'est pas plus bête. Journée de top 14 marquée également par la précieuse victoire du MHR aux dépens de Clermont. Un match où on a enfin vu tout le talent de l'ouvreur anglais de Montpellier, l'international Alex Lozovski, arrivé l'été dernier dans l'Hérault, un anglais frelon des poteaux. Faut vraiment être en semaine de crunch pour s'autoriser une telle folie.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Lozovski, membre de la glorieuse équipe des Saracens, championne d'Europe et d'Angleterre, et qui l'été dernier a donc choisi de quitter le club rétrogradé en deuxième division pour gagner le sud de la France. On attendait beaucoup de lui, oui, mais il a fallu attendre très longtemps. Julien Landry nous rejoint entre les poteaux. Salut mon petit Peyo.
Bonsoir messieurs.
Il a donc fallu attendre très longtemps pour le voir enfin performer sous le maillot du MHR, le petit Lozovski.
Oui, pendant longtemps on a bien cru que Montpellier avait recruté son cousin d'Alex Lozovski, tant le niveau affiché par l'international anglais était loin, très loin même de ce qu'il pouvait faire chez les Saris, chez une équipe, c'est vrai, ultra dominatrice. Et c'était pas son cousin, c'était souvent son demi-frère, quand Montpellier s'était déplacé notamment au Wasp, où l'air anglais avait vivifié Lozovski et il avait montré son potentiel ce soir-là. Il faut dire que l'Angleterre manque à Lozovski à cause du Covid, il ne peut pas retourner chez lui où vit encore sa copine, ses proches, ses amis, et à cause du couvre-feu, il se retrouve seul chez lui les soirs à 18h. Et pas simple pour s'acclimater dans une nouvelle équipe quand les moments de convivialité ont disparu. Et pour ne rien arranger avec les multiples blessures qui ont touché le MHR, il a été trimballé en 10, en 12 ou 13. Pas simple de s'adapter dans ces conditions. Il y a 2 mois, il a d'ailleurs fait partie des joueurs écartés par PSA avant le match de Lyon pour travailler physiquement. Un travail bénéfique. Vendredi, il a sorti son meilleur match avec Montpellier, avec notamment un 100% au pied, dont 2 à plus de 50 mètres, des pénalités que Lozovski ne pensait pas pouvoir mettre. Il a d'ailleurs confié avoir fermé les yeux et tapé le plus fort possible. Mais vendredi soir, rien ne pouvait arriver au MHR. Et les 2 coups de pied ont assuré un succès précieux en vue du maintien.
Voilà, joueur de grand talent, pas facile hein, de s'acclimater comme ça au top 14 dans les conditions dans lesquelles on est en ce moment.
Oui, ouais, c'est dur de vivre à Montpellier. Hein.
Ouais, non.
Ils n'ont pas internet là-bas.
Non, mais c'est donc.
Ouais. Il se retrouve à 18h, il s'assoit dans son canapé et il regarde le mur.
Il a dit qu'il avait un dommage, c'est que c'est un super joueur. Ce qui est dommage, c'est vraiment un joueur qui est un talent fou et qui a fait défaut.
Mais il est censé rester qu'un an, non? T'imagines, il pourrait être en Pro D2 au Saracens et il se retrouve à Montpellier.
Ouais.
Pas la Pro D2, non, ça je le maintiens.
Oui.
Oh, t'es dur, Manu.
Il a fait un grand match, il a fait un bon match. Enfin.
Son meilleur, bon. C'est le seul.
Ce qui est étonnant avec Lozovski, c'est qu'il était très très fort avec une équipe qui avançait, Julien l'a dit, hein, les Saracens
c'est
de
ça.
L'époque, c'était un rouleau compresseur.
Oui, t'as raison.
Aujourd'hui, Lozovski, il fait aucune différence, quoi. C'était son meilleur match ce vendredi, mais depuis le début de la saison, je pense que je l'ai vu casser la ligne peut-être 2 fois, très mauvais dans l'animation. Normalement, c'est censé être un joueur qui était en équipe d'Angleterre, qui était capable limite de foutre Farrell dehors sur une semaine ou deux.
Et là, on me rappelle qu'on avait eu ce débat entre les poteaux quand on parlait
de
jouer centre aussi, avec
13, essentiellement 13.
Ouais, il a même joué à l'arrière et c'est un joueur qui est censé être capable de tout faire et là, il a tout fait mal depuis le début de l'année. Et je sais pas trop, tu penses, Julien, que c'est vraiment le travail physique qui fait qu'il revient ou il a eu une discussion avec Philippe qui lui a dit maintenant t'arrêtes les conneries et...
Non, mais je pense qu'après lui-même l'a reconnu, hein, il est déçu de son niveau et l'adaptation a été plus longue que prévu. Vraiment cette histoire de Covid et le fait de pas pouvoir rentrer en Angleterre autant qu'il souhaitait, je pense qu'il a mal vécu. Alors après c'est une excuse un peu bidon, mais je pense que le petit coup de pied aux fesses de fin du mois de janvier où il a quand même écarté Louis Picamoel qui revient aussi un petit peu, un joueur intéressant, voilà, je pense que ça l'a quand même remis dans le droit chemin et c'est vrai que depuis quelques matchs il est mieux. Alors il s'est adapté, il parle français aussi aujourd'hui un petit peu, donc voilà, son adaptation s'accélère. C'est dommage, dans 3 mois il s'en va au moment où il sera peut-être bon. Ouais, son histoire avec Montpellier sera terminée,
il sera bien préparé par le top 14. À noter que les Saracens, on en parlait déjà tout à l'heure, hein, ont perdu leur premier match en deuxième division. J'ai appris ça en lisant le Middle aujourd'hui. Battus par les Cornish Pirates de Penzance. Vous savez où c'est Penzance?
Non, mais bien sûr.
Bah, c'est un petit bled paumé au fin fond des Cornouailles. C'est à l'ouest de l'ouest de l'ouest
tu
de la Bretagne.
Tu veux dire qu'ils vont descendre en 3e division?
Ah, bah, c'est tant jamais. Ils ont très peu de matchs. Hein. C'est un championnat raccourci et ça va vraiment mal pour les Saris.
C'est la faute d'Eddie Jones, tout
ah,
ça.
Ah, ouais, évidemment, c'est à cause de lui. Montpellier, ouais. Victorieux d'un match capital face à Clermont, le genre de match qu'il perdait avant il y a encore quelques semaines. Julien, il y a une âme quand même dans cette équipe et on l'a retrouvée depuis quelques semaines. Hein.
Oui, il se dégage quelque chose de cette équipe depuis que Philippe l'a récupéré. C'est quand même l'équipe qui a récupéré le plus de bonus depuis le début de la saison. Preuve que cette équipe en tout cas n'a jamais lâché, excepté finalement à Castres il y a 3 semaines où ils étaient passés complètement à travers. C'est une équipe qui lâche jamais et on l'a encore vu vendredi soir, cette volonté de ne jamais céder. Alors pourtant les vents étaient contraires. Ouais. Avec la rentrée mais la rentrée d'Arroyo est fait bien. Il y a quelque chose. Cette équipe dégage quelque chose et ça fait longtemps qu'elle n'avait pas dégagé quelque chose.
Oui,
cette équipe là.
Puis la pièce est tombée du bon côté ce fois-ci.
Oui, et c'est la première fois depuis le début de la saison. Non, mais ils sont.
Non, mais quand tu vois l'arrière japonais de
Matsushima.
Oui,
Tsushima.
Tsushima. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a pas voulu gagner, le mec.
Ouais, parce qu'à la 77e, ça peut basculer. Ouais, ouais,
c'est la première fois qu'ils sont payés de tous les efforts qu'ils peuvent faire sur un match.
Ouais, ils ont été vaillants après.
Par contre, c'est vrai que de voir
leur entraîneur est un peu chaud, un peu tendu, notre Philippe Saint-André National.
Oui, il est tendu, mais alors, pour l'avoir à côté de nous, c'est vrai qu'il a tendance beaucoup à crier hors jeu pendant sur les arbitres. Souvent, on entend beaucoup crier. Et c'est vrai que vendredi, il a eu des mots un petit peu déplacés à l'encontre de l'arbitre, même s'il s'en défend.
Il a l'impression d'être encore sur RMC. Ouais,
c'est ça. Non, mais tous les tous les confrères qui étaient autour de moi, parce que nous en radio on a le casque, donc c'est difficile. Mais tous mes confrères ont entendu les insultes qu'a mis Philippe Saint-André auprès de l'arbitre.
Ah, il va être puni. Voilà.
Je pense qu'il va être convoqué.
Ça fait quand même plaisir. Alors il y avait eu un report Canal+, ça fait un reportage sur la joie d'après match. On les a vus sur le terrain, mais dans le vestiaire. Après tout ce qu'ils ont mangé, ces joueurs, depuis le début l'année, ces défaites dans les 5 dernières minutes, il y en a eu. On les comptait même plus, Julien.
C'est
défaites sur la fin.
7
dans les dernières minutes. Franchement, c'est bonheur de les voir comme ça. Ils disaient comme s'ils avaient gagné le bouclier de Brennus avec
ils ont fait une fête partout. Ils ont fait une fête qui valait le bouclier de Brennus. Je vous raconte la soirée. Elle a été mouvementée. Ils ont fini à la brasserie du stade très tard.
Ah, ils ont le droit.
Très tard.
Qui était toi? Ils ont le droit.
Non, on n'avait pas le droit.
Oui, j'étais pour RMC Denis. J'avais le droit.
Tu es en train de m'expliquer qu'ils ont fait un cluster à la brasserie de Montpellier.
C'était pour manger des crêpes, c'est bon.
Non, mais ça fait du bien parce que, comme vous disiez, cette équipe de Montpellier qui est un peu froide, qui dégage. Qui dégage rien, qui a pas forcément le plus gros capital de sympathie. La voir aussi joyeuse à la fin, voir son coach qui se met les tripes à l'air pour cette équipe qui, franchement, elle est froide, elle est un peu plate,
sympa.
Quoi.
Tu as raison,
ça fait du bien. Ça fait vraiment
sympa.
Du bien.
Et puis je pense qu'il y a eu le soulagement de ce match, mais c'est un peu le tournant de la saison aussi. Ça veut dire qu'ils vont s'en sortir.
Et puis on revient aux sources du club avec la formation, la rentrée d'Yannick Arroyo, le pilier. On a longtemps eu que des Sudaves qui rentraient de 22 ans. Et avec
je la trouve plus sympathique, justement, cette équipe.
Mais parce que ils sont retrouvés à la base avec la formation, des jeunes qui montent, et c'est Yannick Arroyo qui arrache la victoire pour
la semaine prochaine. Pierre-Ami, je vais nous dire, virez-les tous, rappelez-moi du français.
Non, virez juste Saint-André.
Comment ça ?
Qui reviennent chez nous.
Non, mais oh, t'attaques pas.
Une autre petite
pensée,
s'il messieurs, faudra juste que ça arrive à Agen aussi d'ici la fin de saison, parce que là,
c'est vraiment
pour les Agenais.
C'est clair.
Surtout pour Jeff.
Parce que c'est pas gagné.
Il y a l'air Paturo.
C'est
pas le même.
S'ils leur recrutent en deuxième ligne, ils vont pas avancer beaucoup.
Allez, pour terminer, merci Julien.
Paturo de boucher.
Les poteaux, un petit côté fermé, s'il vous plaît.
RMC, entre les poteaux. Côté fermé.
Je me suis régalé, Manu, à la lecture ce matin de l'interview de Walter Spanghero, la légende du rugby français, ancien capitaine du 15 de France, membre de la première équipe de France à avoir remporté le Grand Chelem, et qui raconte les anecdotes piquantes de cette époque. C'était vraiment le bonheur. C'est sorti chez Castel, qui a connu ensuite Denis, évidemment, les tournois de tennis avec McEnroe, mais aussi sa lutte contre la maladie. Walter, qui est passé tout près de la sortie définitive il y a quelques mois, Manu, et ça, on ne le savait pas. Enfin, moi, je ne le savais pas, en tout cas.
Oui, c'est des informations qui circulent dans le milieu et principalement aussi à Toulouse. La santé de Walter, c'est important. Tout le monde se demande comment il allait, comment il va. Il y a eu de multiples opérations. Ça n'a jamais. Ces derniers mois ont été délicats pour lui, plus encore avec le Covid. Aujourd'hui, il va mieux. Il relève la tête et se relève au fur et à mesure. Donc, il nous a accordé une interview. Ce qui est rare chez Walter, c'est pas un homme qui s'épanche souvent dans les médias. Il a raconté son histoire, son parcours, une partie de son parcours, et aussi toutes les difficultés qu'il avait partagées avec les siens ces derniers mois. Et ça nous donne un vrai bon moment à lire, un témoignage très fort. Qui est à partager aujourd'hui.
Et la célèbre formule de Walter Spanghero, si j'avais pas pris dans le nez, je l'aurais pris en pleine figure.
Heureusement qu'il y avait mon nez. Franchement, je l'aurais pris dans la gueule.
Franchement, il y a à chaque réponse, moi j'ai lu hier soir là, alors sur sa santé, c'est terrible tout ce qu'il raconte, c'est un colosse quand même, c'est incroyable. Et puis certaines anecdotes, l'anecdote que les Rossiers qui doit partir à Toulouse, qu'il est licence rouge à De Ferras et qui se plaint à Jacques Chirac qui est premier ministre, quoi. Il dit Albert Ferras, Ferras m'a sucré la licence et que Chirac se tourne vers Ferras qui est là et qui lui dit Albert, c'est quoi cette histoire de licence quoi. Et il dit oui bon c'est bon, il sera requalifié dimanche. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas des, enfin ça nous manque des interviews comme ça, ah, on a souvent là,
mais
on s'en plaint
plus
un peu
des comme
fois
ça, mais évidemment les
des interviews conventionnées et ça franchement ça fait du bien.
C'est un bonheur.
Ça fait du bien.
Écoute, c'est hors attaché de presse, c'est hors.
Et bien sûr, monsieur.
En direct. Et si ça va pas, il t'en met une. Tu fais le tour de la planète pendant 10 ans. Non, mais c'est du Walter dans le texte et c'est un vrai bonheur.
T'as compris le coup.
Ah, t'as compris.
Milo.
Merci beaucoup, les gars. Voilà, à lire donc dans Midi Olympique. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine.
Après le crunch. La route au Grand Chelem.
On aura beaucoup de choses à dire.
Et évidemment, vous serez à Twickenham, Denis.
Oui, évidemment, avec toi.
Dans les chiottes.
Oh là là, quel calvaire ce Covid.
Allez, écoute, que les Bleus gagnent et puis après
oui,
ça
voilà,
ira
on s'en fout du reste.
Ouais, du moment qu'on bat les Anglais, après on peut perdre contre tout le monde, c'est pas grave. Bonne semaine et à lundi prochain entre les poteaux.